Alors, c'est ce qui est difficile à dire. Je crois que là, la seule analyse qu'on puisse en faire, c'est de voir l'attitude des forces de défense de sécurité à l'intérieur du pays. Il y a eu des manifestations dans plusieurs villes du Burkina Faso depuis hier. Et ces manifestations se sont déroulées parfois même devant des casernes sans qu'il y ait de réaction négative de la part de ces forces de défense de sécurité. Ce qui peut être considéré comme pas eu un soutien à la population ou contre le putsch, mais c'est un facteur qu'il faut considérer dans la suite des événements. Et en définitive, tout le monde est en train de scruter la situation pour voir est-ce que le RFP bénéficie du soutien du reste de l'armée ou pas. Est-ce que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, on peut s'attendre à ce que d'autres composantes des forces de défense sécurité réagissent ou bien se rallient à la population? Je crois qu'il y a beaucoup de spéculations autour de cela et on attend de voir ce qu'il en sera. Mais déjà, il y a des informations qui faisaient à croire que ce n'est pas tout, le commandement de l'armée qui serait derrière ce coup, mais il n'y en a pas quand même d'officiers supérieurs qui s'en est désolidarisé pour le moment.
La parole maintenant à notre auditeur Faceli Massaré de Conakry en Guinée. Bonsoir Faceli.
Bonsoir monsieur, bonsoir à vous.
Voilà, allez-y.
Bon, moi, c'est que mes analyses portent sur la façon dont la jeunesse s'est battue au début. Mais aussi, il y a quelque chose de changement qui est des positifs. Ils sont voulus aller maintenant de l'avant. Mais je suis très surpris d'avoir appris cette nouvelle que les putschistes ont essayé de caserner ou bien de mettre en otage le président et le ministre. C'est quelque chose qui a vraiment, qui déplore vraiment. Mais tout ce qu'on doit dire à la jeunesse, c'est de se relever à nouveau. Et je vois déjà que c'est une remise en cause de l'appellation pays des hommes d'intérêt. Nous avons conçu qu'avec le Burkina, il serait possible de résoudre leur crise à l'intérieur. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on a constaté, c'est des choses qui sont arrivées et qui tournent très très mal. J'appelle à se révéler de nouveau.
Oui, Faceli, nous avons quelques soucis à vous entendre avec tout ce bruit en fond sonore. Mais Dania Ida, pour notre ami Faceli Mansaré de Conakry en Guinée, cette situation entame l'intégrité du pays des hommes intègres.
Absolument, absolument. Vous savez, nous étions observateurs d'un processus politique assez exemplaire. La transition était en train d'être menée avec quand même assez d'innovation et les élections étaient en train d'être préparées avec assez de doigté par la commission électorale. Et tout se passait assez bien. Le Burkina Faso était cité en exemple comme un peuple capable de prendre son destin en main, comme un peuple capable d'innover quand il y a des difficultés. Et les forces politiques se parlaient entre elles. Et je me rappelle encore qu'il y a moins de 10 jours, les représentants de l'ancien parti au pouvoir se sont rendus chez le président Kafando quand ils ont été recalés aux élections à l'élection présidentielle. Donc il y avait quand même un dialogue interinstitutionnel entre les différents acteurs et personne ne pouvait s'attendre à ce que, s'il y a différence, cela puisse conduire à un tel coup d'arrêt. Ceci étant dit, je crois que la réaction que l'on observe depuis 2 jours de la part de la population démontre que ce pays quand même conserve tout le crédit qu'on lui doit et il ne faut pas tout de suite conclure à quoi que ce soit. Ce pays a la capacité de rebondir et on va voir. Je ne suis pas sûr que le RFP se décide à tirer sur la population, à tuer des centaines ou des milliers de gens juste pour prendre le pouvoir. Si tel est le cas, j'espère que la communauté internationale ne va pas laisser faire parce qu'il y a des choses assez graves qu'on signale déjà. Il y a pas mal de morts qu'on signale et il y a lieu de réagir et je pense que c'est le bon moment de le faire.
Voilà, et notre amie, notre auditrice Awa Maïga écrit sur Facebook, Zida est le seul responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Il nous cache beaucoup de choses qu'il a en commun avec ses frères d'armes. Sinon, pourquoi parle-t-il de trahison? Pourquoi l'armée se mêle du pouvoir du peuple? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre tout à l'heure après cette pause.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Timothée Donangmaï, en votre compagnie dans cette émission Antenne Libre de VOA Afrique consacrée à la crise au Burkina Faso. Notre invité en direct de Ouagadougou, Dany Aïda, analyste politique, expert en gouvernance pour Africa Label, une firme de conseil en développement international. Alors Dany, je lisais tantôt le message Facebook de Awa Maïga qui dit, qui estime que le lieutenant-colonel Isaac Zida est le seul responsable de ce qui se passe aujourd'hui, qu'il n'a pas dit toute la vérité au Burkinabé.
Non, c'est difficile de faire l'avocat d'Isaac Zida, mais moi je dirais plutôt le malheureux Zida, parce que vous voyez ce monsieur qui a fait tout se rallier à la population qui revendiquait le départ de l'ancien régime. Aujourd'hui, nous faisons face quand même à la résurgence d'une vieille querelle. Et le général Diendéré, ancien chef d'état-major particulier du président Compaoré, qui prend le pouvoir, ce qui est en droite ligne donc des intérêts de l'ancien régime. Donc, qu'on voit aujourd'hui d'accointance entre Zida et ceux qui sont en train de mener le coup, je pense que c'est trop vite dit. C'est un raccourci que moi, je n'oserais pas prendre. Ceci étant, je crois que beaucoup d'acteurs burkinabés doivent réfléchir à la situation actuelle et se demander quelle est leur responsabilité dedans. Est-ce que la transition avait, par exemple, à son terme, à régler définitivement la question du RFP? Ça, c'est une question qu'il faut régler. Est-ce qu'il fallait s'attendre à moins de 12 mois à ce que de graves problèmes de ce pays liés, par exemple, à des crimes de sang antérieurs soient difficilement réglés, ou bien ce sont des questions qu'il fallait attendre qu'un gouvernement mis en place à l'issue des élections puisse, par exemple, faire face? Je crois que beaucoup d'interrogations sont là, mais ce n'est pas l'heure de faire le bilan de cette transition, c'est l'heure plutôt de se demander quelle est la responsabilité des uns des autres, acteurs sociétés civiles, acteurs partis politiques et de l'armée aussi, par rapport à l'avenir du pays à partir de maintenant. Il y a beaucoup de choses à sauvegarder, notamment les acquis de cette transition qui sont assez nombreux. Le Burkina Faso est en train de redessiner l'architecture de sa gouvernance pour les prochaines années. Et il me semble que passer tout cela par perte et profit serait énorme pour ce pays quand même qui a beaucoup de priorités à régler. Donc, ceci étant, je pense qu'il faut savoir raison garder, ne pas tout de suite jeter l'huile sur le feu en assumant des responsabilités trop rapidement.
La parole maintenant à Bakary Bouba Ouédraogo du Burkina Faso. Bonsoir Bakary. Allô Bakary?
Oui, allô?
Oui, allez-y.
Oui, allô, je vous écoute.
Oui, Bakary, donc vous êtes en direct dans l'émission Antenne Libre de VOA Afrique sur la crise dans votre pays. Qu'est-ce que vous avez à dire au sujet de cette crise?
Ce que j'ai à dire, vraiment, que vraiment Diendéré, qui n'a qu'à laisser vraiment le pouvoir parce qu'il a voulu tenter un truc. On sait qu'il a vraiment, il a beaucoup fait, il a tenté, mais qu'il laisse le pouvoir maintenant aux civils.
Voilà, merci Bakary. Nous avons aussi Agbessi Messan qui nous appelle du Niger, je crois. Bonsoir Agbessi. Allô, Agbessi Messan Foli? Non, nous n'avons pas notre ami Agbessi. Nous avons quelques problèmes de liaison avec lui. Alors, Dany, est-ce qu'il suffit de demander au général Diendéré de quitter le pouvoir et céder ce pouvoir aux civils pour qu'il parte?
Je pense que, bon, c'est bon de le lui demander, mais il faut essayer aussi peut-être de comprendre qu'est-ce qui a poussé ce militaire, cet officier quand même assez expérimenté à prendre cette décision à un moment où le pays allait prendre quand même un détour important par rapport aux élections. Si ceci est dit, s'il y a discussion dans les jours à venir, il faut s'attendre à savoir qu'est-ce que le général Diendéré attend, qu'est-ce que le RFP attend. Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles les acteurs burkinabés pourraient définitivement, disons, solder les comptes, ou bien est-ce qu'il y a des concessions à faire pour que les élections se tiennent? Je crois que ce sont là des points sur lesquels il faudrait bien que des gens se penchent, parce que si chaque parti veut garder sa position, il me semble que cela va conduire, cela peut radicaliser la position du côté des militaires. Le pays prenait quand même, disons, un virage assez intéressant à la suite quand même de dizaines d'années de gouvernance pilotée par des personnes issues de l'armée. Depuis l'indépendance du Burkina Faso, il me semble que c'est seulement 3 ans de gouvernance civile qu'on a eu. Après cela, il y a eu plusieurs coups d'État, il n'y a eu que des militaires. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Le régime, un régime civil, démocratique, allait se mettre en place à l'issue de cette transition qui est assez importante, qui a quand même aussi a été très rapide, il faut l'avouer. En 12 mois, on a voulu faire beaucoup de choses. Je crois qu'avec recul aujourd'hui, il faut se demander si on n'a pas trop voulu en faire. Est-ce qu'on a bien eu le temps de régler les problèmes comme il faut? Est-ce qu'il y a eu suffisamment de dialogue? Je crois que c'est le moment certainement de s'y pencher, mais ce qui est urgent, c'est de laisser la transition politique qui était en place reprendre pour que les différents dossiers puissent être conduits à bon port et que ce pays puisse connaître les élections telles qu'elles étaient préparées.
Alors, Dania Ida, on continue d'épiloguer sur de possibles éléments déclencheurs du coup d'État de cette semaine. Certains parlent de la communication prévue au parti civil du rapport sur la mort du président Thomas Sankara. D'autres citent le rapport de la Commission nationale de réconciliation et de réforme qui préconise notamment la dissolution du régime de sécurité présidentielle. De quel côté penche la balance ici?
Je crois qu'il y a des facteurs qui se conjuguent pour conduire à ce ras-le-bol, certainement pour certains qui a conduit à cela. Le RFP pendant la transition a eu à se faire voir plus d'une fois, mais elle n'a jamais osé prendre le pouvoir. Il y a des événements récents, parmi lesquels, évidemment, le rapport de la Commission nationale de réconciliation et de réforme qui a préconisé clairement et formellement la dissolution du RFP. Il y a aussi effectivement les résultats de l'autopsie du corps du président Sankara qui était prévu pour le jeudi. Donc tout cela peut nous faire croire quand même qu'il n'y a pas de coïncidence fortuite. Il y a eu un déclic à partir du fait que peut-être du côté du RFP ou de son leader charismatique Diendéré, de bon droit, il a dû craindre peut-être que cela conduise à ce qu'il soit mis en cause directement, et bien ça aussi c'est un facteur qui ne faut pas faire de vue. Ceci étant dit, je crois qu'il faut lire entre les lignes la déclaration du CND qui prend appui essentiellement sur le fait que le régime de transition, le pouvoir de transition, je voudrais dire, aurait exclu des acteurs donc de l'ancien régime, et ça a été considéré comme le facteur important. Et on a vu des leaders quand même du CDP qui semble donner l'impression de soutenir ce coup. Ceci étant, vous voyez que les facteurs sont multiples, mais la résultante est la même, c'est la remise en cause d'un processus qui était quand même assez inclusif en définitive, puisque l'ensemble des partis politiques s'apprêtaient à aller aux législatives. C'est seulement sur le plan de l'élection présidentielle que les candidats issus de l'ancien régime ont été récalés. Donc ceux-là aussi, quand vous lisez aujourd'hui la déclaration faite par l'ancien ministre des Affaires étrangères qui demande au nouveau leader du pays, le leader militaire de la junte du CND, de déclarer sa feuille de route, bon, cela peut apparaître comme une caution apportée à ce putsch aussi. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs intérêts qui se croisent dans ce coup d'État, ce qui veut dire que s'il y a débat, s'il y a dialogue inter-Burkinabé demain, on risque d'avoir autour de la table des gens qui ont des intérêts conjugués, qui voudraient qu'il y ait un résultat ou bien un certain nombre de décisions prises par le gouvernement de transition, le CNT et autres, puissent être rediscutées pour que certains intérêts au niveau national soient sauvegardés pour autant, parce qu'il n'y a pas unanimité de ce point de vue, et camoufler sera faire une vue de l'esprit.
Un appel de Kinshasa de la part de notre ami Alphonse Mbouaki. Bonsoir Alphonse.
Bonsoir Timothée de Namaï. Moi, je voudrais dire que au Conseil national démocratique, ce n'est plus l'ère des militaires, mais c'est que cette époque est déjà révolue. Maintenant, c'est l'ère de la maintenance démocratique. Hein. Ce n'est pas l'ère de président Sassou, mais c'est l'ère où l'Afrique veut voir des civils diriger la politique, le pouvoir. Donc, je veux dire au général Guédéré qu'il remette le gouvernement de transition et le réhabilite dans ses droits. Parce qu'à moins de mois, déjà, l'institut devait être organisé. Donc, ce n'est pas accepté qu'il y ait des instituts qui sont hors la loi, que le Conseil national de démocratie vienne perturber les choses alors que tout c'était déjà arrivé au terme. Donc, j'en appelle à la confiance du Conseil national de démocratie de restituer, de remettre le pouvoir à M. Michel Sassou avec son premier ministre, Isaac Zida. Voilà ce que je voulais apporter comme pierre de contribution à cette émission.
Merci beaucoup, Alphonse. La parole maintenant à Batili de Bamako. Bonsoir, Batili.
Bon.
Voilà, allez-y, Batili.
Bon, moi, je trouve qu'on est trop déchets en Afrique par le comportement des dirigeants africains. Je crois que Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, et l'autre là de Guinée, comment il s'appelle, Alpha Condé, c'est Alpha Condé. Mmh. Et puis tous ceux-ci ont vraiment perdu leur langue de soi-même. Parce que quand vous vous souvenez, au coup d'État de mars 2012 au Mali, du jour au lendemain, on a ressorti les gros mots. Il faut que les militaires partent avec des menaces. Ils ont même pris un avion en nombre hein, pour venir à Bamako, mais ce jour, ils n'ont pas pu atterrir à l'aéroport international de Bamako, c'est nous. Mais cette fois-ci, Alassane, le grand point d'interrogation est là, de son côté. Il a entendu parler, même si c'est fait, moi je ne l'ai pas entendu, et Blaise est son hôte. Vraiment, maintenant, Alassane doit vraiment parler pour qu'on sache de quoi il se mêle. Et parce que Blaise... Mais ça sent vraiment, il faut savoir que Blaise, quand même, est en Côte d'Ivoire. Un, Blaise était l'ancien président. Deux, et trois, et le général Diendéré, c'est le chef d'état-major de Blaise. De loin ou de près, Blaise est impliqué. On ne peut pas dissocier ça. Et puis, quant à l'autre parti majoritaire qui se trouve dans l'opposition à la transition aujourd'hui, ils ont cautionné. Vous entendez le président de ce parti, je crois que c'est qui parle de vraiment, il n'a pas condamné en un mot, et puis Djibril Bassolé, ce qu'il vient de dire. Quant à Maïga qui dit que Zida, il y a quelque chose entre Zida et le reste, moi je dis que la transition a démarré. On était à quelques jours du lancement des campagnes électorales. Pourquoi est-ce que le président du parti de Blaise n'a pas laissé entendre à qui veut l'entendre comme quoi c'est eux qui ne se présentent pas aux élections, il n'y aura pas d'élection.
Voilà, merci Batili, excellente remarque. Dani Aïda, le silence de la sous-région par rapport à cette situation burkinabé et surtout le silence de la Côte d'Ivoire.
Oui, bon, est-ce que la Côte d'Ivoire en tant qu'État a prendre position? Je n'en sais rien. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont deux pays, carrément un peu les pays cousins. On a l'habitude de plaisanter en disant qu'il y a une très forte communauté de Burkinabé en Côte d'Ivoire et l'ancien président est actuellement exilé en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il y a, je crois que l'analyse que l'auditeur vient de faire a du sens quand même parce que, évidemment, le président Compaoré étant l'hôte du président Ouattara, on peut estimer que Ouattara aurait un mot à dire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Côte d'Ivoire fait partie de la CEDEAO et la CEDEAO a réagi très tôt à la situation en cours au Burkina Faso. La CEDEAO a donné mandat au président Macky Sall et a donné comme médiateur. Il venait pour intervenir et faire parler les Burkinabés entre eux pour trouver une issue à cette crise. Ceci étant dit, il y a des choses qui se font dont certainement on ne parle pas. Espérons que le médiateur Macky Sall et son collègue, son homologue Yaï Boni sauront faire intervenir les personnes qui jouissent d'une certaine prestige, d'une certaine aura pour que les pressions puissent être exercées sur les personnes susceptibles de faire débloquer la situation.
Voilà, merci Dani. C'est tout le temps que nous avions pour cette émission. Merci à Dani Aïda d'Africa Label à Ouagadougou et Timothée Donangmaï à Washington. Rendez-vous à 21h temps universel pour une autre émission à temps libre.